C'est un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Romangar, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 49e édition de Romangar, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur indinois Jean-François Dupont, dont le dernier roman, De rares nuages, est paru le 2 septembre 2025 aux éditions Asphalt. Jean-François, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous étiez venu nous voir le jeudi 23 mai 2024 à l'occasion de la sortie le 1er mars de la même année de votre avant-dernier roman, L'Échappée. Quel retour vous en ont fait les lectrices et les lecteurs que vous avez pu croiser en séance dédicace ou en commentaire sur les réseaux sociaux?
Oh, c'est un petit peu compliqué de résumer des retours parce que finalement, les gens vous parlent parfois d'un passage ou d'un personnage. Donc, je ne veux pas vous dire que j'ai eu des retours vraiment des louanges ou alors des gens qui m'ont dit que ça n'allait pas du tout. Non, c'est plutôt un peu entre les deux, des choses nuancées, des gens qui se sont identifiés à certains passages. Voilà.
D'accord. Alors, vous étiez présent le jeudi 19 septembre 2024, au domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse, à l'occasion du passage dans l'Inde de votre ami Philippe Ridet, qui présentait son dernier livre « Bande de héros », et à l'invitation de la librairie Montbarbon et de la Voix de l'Ain. Vous étiez l'un des intervenants lors de cette très belle soirée. C'est tout sauf un hasard, Philippe Ridet et vous, c'est une très longue histoire et pas uniquement littéraire.
Oui, je rappelle que je connais Philippe Ridet depuis la classe de 4e. J'ai rencontré Philippe au lycée Lalande, donc c'était en 1969, donc ça ne nous rajeunit pas. Et c'est vrai que c'est une amitié qui a duré finalement, enfin qui est destinée à durer l'espace d'une vie, à moins qu'on se crêpe le chignon maintenant, mais ce serait un petit peu dommage.
Vous avez un an d'écart avec Philippe Ridet, c'est votre génération dont il est question dans ses derniers romans. Vous retrouvez, vous, dans les derniers livres de Philippe Ridet, je pense à « Ce crime est à moi », à « Des amis de passage » et à « Bande de héros ».
Plus particulier, alors « Ce crime est à moi », c'est un fait divers qui a beaucoup secoué la ville de Bourg à l'époque. Mais c'est surtout, évidemment, dans « Bande de héros » que je me retrouve, puisque je suis un des personnages principaux, on va dire. C'est l'histoire d'une bande de jeunes gens dans les années, à la fin des années 70, au début des années 80, qui est à l'âge où justement on ne sait pas s'il faut, enfin, je reprends les mots de Philippe, s'il faut rester dans sa petite ville, s'y engluer ou au contraire partir. C'est un des sujets. Et tout ça au milieu de fêtes dans une maison qui ressemble beaucoup à celle de mes parents.
Ouais. D'accord. Alors, cette relation qui vous unit, Philippe Ridet et vous, est forcément littéraire aussi. Vous échangez vos livres avant qu'ils ne paraissent.
Alors on ne se lit pas avant. C'est-à-dire que il est peut-être arrivé qu'on échange un ou deux manuscrits, mais par exemple, bon, il a terminé un livre, je le lirai quand il sera publié. Et puis pour les précédents, c'était un peu la même chose. On a un rapport par rapport justement au manuscrit qui fait que on ne se fait pas forcément confiance au niveau des conseils qu'on peut se donner l'un à l'autre. on est des droites parallèles pour ça, on va dire.
Bien. Alors, depuis notre première rencontre, le 23 mai 2024, et s'est écoulé un peu plus d'un an et demi, le temps pour vous de finir d'écrire votre nouveau roman et de voyager, comme à votre habitude. Vous oui. finissez d'écrire et ensuite vous partez en voyage.
Alors, pour le précédent qui s'appelait L'Échappée, j'ai donné mon manuscrit à mon éditrice juste avant de partir au Vietnam, en me disant qu'elle aura le temps de corriger ce que je lui ai envoyé. Et puis au retour, on débriefera. Mais à peine avais-je posé le pied au Vietnam, enfin j'exagère un peu, mais disons 3 ou 4 jours après, elle avait déjà tout lu, tout corrigé. Et elle m'avait renvoyé déjà des corrections. Ce qui fait que j'ai corrigé une partie de mon manuscrit au Vietnam. Moi, je passe sur les détails parce que faire imprimer un texte, trouver une imprimerie, enfin, ça a été une petite aventure. Voilà.
Le 23 mai 2024, vous étiez sur l'écriture de votre nouveau roman. Vous n'aviez pas voulu en dire plus car il était loin d'être terminé. Tant qu'il n'est pas terminé, corrigé et édité, ça vous gêne d'en parler ? C'était vraiment trop tôt ?
Oui, c'est toujours comme ça. Là je suis dans un nouveau manuscrit, mais je trouve que c'est quand même embêtant de parler d'un texte écrit à moitié comme ça. On peut évoquer, si vous voulez. Mais bon, il y a cette espèce de superstition qui veut que tant que le livre n'est pas sur un rayon, il n'existe pas.
Ouais. Alors, quand avez-vous commencé justement l'écriture de votre nouveau roman, De rares nuages ?
De rares nuages ? Alors, vous me posez une question insoluble. Là, je ne sais pas vraiment quand est-ce que je l'ai commencé. Alors, en revanche, je peux dire que je traîne un peu cette histoire depuis le fait divers qu'il a engendré, c'est-à-dire depuis le début des années 2000. Le fait divers s'est déroulé en 2005, d'après mes souvenirs.
2002.
Voilà. 2002, ben, ouais. Excusez-moi. Après, j'ai voulu raconter cette histoire telle qu'elle s'était produite en écrivant un texte très, très sobre, arriver à trouver une écriture, un point de vue qui serait vraiment juste taillé dans le texte, en faire un texte minimal, parce que je considérais cette histoire, si on y revient après, comme un condensé de tristesse et de tragédie. J'avais vraiment été marqué. Mais bon, les années ont passé, j'ai jamais trouvé la juste écriture, le juste point de vue, et pour filer finalement la métaphore aérienne, puisqu'il en est question, je n'ai jamais trouvé la juste altitude pour raconter de manière aussi fluide et sobre cette histoire. Et puis, un jour, les choses se sont débloquées. Alors, je ne sais pas quelle sera votre prochaine question, mais les choses se sont débloquées comme un grand, on pourrait dire un grand courant d'air qui m'a incité à transformer cette histoire, à faire que les choses ne se déroulent pas exactement comme elle s'était produite dans cette tragédie.
Alors, ce nouveau roman s'appelle « De rares nuages ». Il est sorti le 2 septembre 2025. Pouvez-vous, sans trop en dévoiler, nous raconter au moins le début de l'histoire ?
Je peux peut-être quand même commencer par le fait divers qu'il a produit.
Oui. Hein, oui.
Alors, donc en 2002, un ingénieur russe attend, je crois, à Barcelone, sa petite famille, sa femme et ses deux enfants Sauf que cette petite famille n'arrivera jamais parce que l'avion qui les transportait entre en collision avec un autre avion à la suite d'une erreur d'aiguillage, d'une confusion aussi. Enfin, il faudra entrer dans les nuances, on ne va pas le faire maintenant, mais bon, d'une confusion d'un aiguilleur du ciel qui va avoir quand même un rôle dans la suite de l'histoire. Notre père de famille, notre ingénieur russe fonce sur les lieux de la catastrophe, participe aux recherches. Alors là, on est dans la vraie histoire, hein, dans ce qui s'est réellement produit. Participe aux recherches, retrouve même le corps intact de sa fille dans un arbre. Et cet homme, dévasté par la douleur, va plonger dans une très grave dépression, jusqu'à aller, par exemple, jusqu'à dormir sur la tombe de sa petite famille. Et un jour, allant mieux, mais aussi peut-être plus mal, il décide de retrouver l'aiguilleur du ciel qu'il considère comme le responsable de son malheur. Il engage un détective. Ce détective identifie l'aiguilleur du ciel. Le père de famille se rend au domicile de cet aiguilleur du ciel et il le tue. Voilà la vraie histoire telle qu'elle s'est déroulée. L'homme, évidemment, l'assassin, avait été évidemment immédiatement arrêté par la police suisse. Je passe sur les détails de ce qui s'est produit après. Donc, voilà l'histoire que j'avais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si en sonnant à la porte de cette maison où habitait l'aiguilleur du ciel, il tombe sur des membres de sa famille, parce que cet aiguilleur du ciel, il a une famille, il a une femme, il a deux enfants. Là, on entre dans l'imagination, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait dévier l'histoire. C'est-à-dire que notre personnage central, qui s'appelle Simon, va être pris dans une sorte de toile d'émotion, de résistance à se demander s'il, dans un premier temps, évidemment, s'il va tuer l'aiguilleur du ciel, ce qu'il ne fait pas, et vont se tisser avec les membres de cette famille, notamment la femme de l'aiguilleur et ses deux grands-enfants, des relations ambigu. L'aiguilleur du ciel, lui, n'est plus qu'une épave qui est rongée à la fois par la culpabilité et puis par l'alcool et les médicaments. Mais les autres membres de la famille sont là et notre personnage central, Simon, a beau résister, il se passe des choses comme entre n'importe quel humain. Cette famille a beau être celle de l'aiguilleur, c'est une famille qui l'aimante. Il résiste de plus en plus, mais plus il résiste, plus les liens se tissent avec cette famille. Alors ensuite, évidemment, des choses se passent et je peux guère aller plus loin.
Non, vous êtes déjà allé voilà. Assez loin d'ailleurs.
Oui.
Ouais, ouais. Alors, donc, Deux nuages se déroule à vol d'oiseau, ou plutôt d'avion, on dira, dans un triangle entre Lyon, Vaux-en-Bugey et l'aéroport de Saint-Exupéry à peu près.
Hein, oui, et puis on pourrait ajouter Turin. Mais Turin, c'est plutôt sur la fin du roman.
Ouais, ouais. Donc l'accident d'avion a lieu au-dessus du Bugey, à la verticale de la commune de Vaux. C'est un lieu qui se prêtait pour une catastrophe aérienne.
C'est un lieu de promenade où je vais à peu près tous les jours sur les collines qui surplombent Vaux-en-Bugey. avec mon chien, et ça me permet aussi de réfléchir. Et je me disais que c'était un endroit assez propice au crash. Bon, j'ai un peu aménagé, parce qu'il y a des très grands champs de maïs et des forêts autour. Donc c'est vrai que j'ai un peu aménagé de manière imaginaire ces collines, mais voilà, c'est comme ça que c'est venu.
Alors, lorsque vous écriviez De rares nuages, le fan de cinéma que vous êtes a eu besoin d'imaginer l'histoire avant de l'écrire, ou c'est l'écriture qui vous a nourri? Vous connaissiez forcément la fin quand vous avez commencé à écrire votre roman?
Non. Alors là, c'est même presque exceptionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon personnage central, Simon, sonne à la porte de la famille de l'aiguilleur, j'étais avec lui et j'hésitais autant que lui. C'est-à-dire que j'ai avancé dans l'écriture comme si j'étais lui. Et c'est assez incroyable. C'est-à-dire que pendant un certain temps, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas si la vengeance allait finalement prendre le pas ou si, au contraire, les choses allaient s'équilibrer. Jusqu'à ce que, finalement, le récit s'ouvre dans ma tête et que je vois les choses différemment, parce que je connaissais mieux mes personnages aussi. Les deux adolescents, la fille et le garçon, et je connaissais mieux la femme. C'est comme si j'étais plus proche d'eux dans une forme de réalité, si vous voulez.
Alors, le personnage principal s'appelle Simon et est architecte, comme l'était l'assassin de l'aiguilleur du ciel dans le fait divers réel. C'est un hasard ou ça a son importance dans l'histoire du roman ?
Oh, ça n'a pas une très grande importance. Il se trouve qu'effectivement, le vrai personnage, celui qui a subi ce drame, était architecte, mais ça me permettait une certaine souplesse au niveau de la vie de mon personnage, qui avait un associé. Donc on est dans le domaine du détail, si vous voulez.
Donc le titre de votre nouveau roman, De rares nuages, est, je vous cite, une approximation à la station météo locale. En réalité, le ciel est d'un bleu absolu ce matin-là. Le ciel de la pochette est d'un bleu magnifique. Cette couleur a une signification, le bleu de la pochette.
C'est un peu la... Oui, mais là, je dévoile un peu des choses. C'est-à-dire que c'est un peu la lumière qui va peu à peu apparaître dans la dernière partie du livre. Le roman commence par ce bleu pur. Finalement, la météo s'est trompée, parce que en réalité, il faisait un ciel vraiment, vraiment pur. Et deux avions se sont heurtés dans cette pureté.
Ouais. De rares nuages traite donc du deuil chez un homme pris entre le désir de vengeance et de reconstruction. C'est plus facile de se venger que de se reconstruire.
Oh, je pense que c'est plus facile de se venger. Je suis obligé d'ajouter autre chose. Je ne voulais pas surtout pas qu'on ait finalement quelque chose qu'on a déjà vu mille fois, un homme frappé par un drame et qui se reconstruit, ce qu'on appelle un peu, avec ce mot résilience qu'on entend tous les matins. Je voulais quand même qu'il se passe des choses et que ce soit pas si simple que ça. La reconstruction, on a vu des récits, des témoignages sur le Bataclan, et on voit quand même à quel point les gens ont du mal à se reconstruire. Donc je voulais qu'il en bave d'une certaine manière et que cette reconstruction soit une reconstruction, déconstruction, reconstruction, et qu'il y ait cette hésitation justement et cette résistance à vouloir être fidèle à sa petite famille qui était disparue.
Mmh. Simon a un désir de vengeance pardon, qui est ambigu. On le sent plus perdu qu'haineux. Passer à l'acte, c'est faire preuve de courage qu'il n'a pas.
Est-ce que c'est une question de courage ? J'en sais rien. C'était dans la sensibilité de mon personnage. C'est-à-dire que il était dans l'élan de la vengeance. Et puis, est-ce que c'est sa sensibilité qui fait qu'il ne sort pas un couteau de sa sacoche? J'en sais rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mon personnage, c'était un peu moi d'une certaine façon. Comment je me serais retrouvé devant cet aiguilleur avec un couteau. Donc, c'est la nuance d'un être qui... C'est pas une question de courage, peut-être. C'est peut-être autre chose, une forme d'humanité. Et d'autant plus qu'il est quand même perturbé par la famille qui est quand même présente dans la maison et qui s'aperçoit qu'il va tuer un père, qui va rendre une mère veuve, une femme veuve et des enfants orphelins. Il y a tout ça dans sa tête, tout se mêle.
J'ai l'impression que c'est pas facile de se mettre dans la peau d'un personnage comme Simon.
Non, justement, c'est pour ça que j'en ai un peu bavé pour être dans la peau de cet homme. Mais c'était volontaire, puisque à partir du moment où j'avais décidé de modifier le cours de l'histoire, à partir du moment où il arrivait chez cette famille, je me suis heurté évidemment à un certain nombre de réflexions, de soucis. Que faire ? Je l'ai fait plonger très bas dans une première version. Il est lui-même devenu une sorte d'épave. Et puis non, ça n'allait pas. J'allais me retrouver avec deux épaves, à la fois l'aiguilleur et Simon. Donc j'ai corrigé le tir.
Alors comme dans votre dernier roman, il y a une rencontre qui change le cours de l'histoire. C'est la rencontre entre votre personnage principal et une femme. Comme dans votre dernier roman, cette rencontre est très importante.
Oui, mais je la voulais aussi très lentement. C'est-à-dire que finalement, comme lui, il est en résistance, cette relation se noue vraiment avec délicatesse. Cette femme est délicate, elle est fine. Elle essaye de nouer le lien, mais c'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est cette femme qui finalement noue et dénoue le lien d'acier trop dur qui les reliait.
Votre roman a une écriture très cinématographique et on pourrait presque le qualifier de noir avec un côté polar ou thriller avec un drame, le crash des deux avions, une enquête menée par Simon avec une fin qui est tout sauf convenue. Ce mélange des genres, c'est un peu votre marque de fabrique ?
Bon, je pense que c'est la marque de fabrique d'un certain nombre d'auteurs. C'est-à-dire qu'on cherche quand même à éviter les poncifs, les clichés, les lieux communs. Donc, à certaines étapes, on se dit « Ah non, tu prends pas ce chemin, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Tu vas raconter... un truc qu'on a lu mille fois. Donc c'est là qu'il faut trouver le chemin de traverse qui, qui va permettre d'apporter quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est, j'ouvre des petites fenêtres, hein, restons modestes. Hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des petites fenêtres, il y a des petits chemins. Il faut arriver en tâtonnant à avancer.
Dans vos derniers romans, il y avait un peu de vous dans le personnage principal. Dans De rares nuages, on a plus de mal à déceler le Jean-François Dupont, à part géographiquement parlant, bien évidemment. C'est un roman moins personnel, moins proche de vous et de ce que vous êtes.
Écoutez, je pense qu'il faudrait qu'on ait un psychanalyste ici. Je pense qu'il trouverait beaucoup de choses à dire, à commenter sur moi. Il y a certainement des... En filigrane, cette disparition de la petite famille... Elle ne vient pas de nulle part, je vais pas raconter ma vie, mais c'est j'ai heureusement je n'ai pas vécu ce drame, mais il y a de la psychanalyse là-dessous, et le Jean-François dont vous parlez, il est quand même un peu présent chez Simon.
Une playlist musicale que l'on retrouve également sur le site de la maison d'édition www.asphalte-edition.com figure sur le rabat de fin et accompagne et prolonge la lecture du roman. Alors, comment avez-vous choisi les artistes et les morceaux ?
Alors, il fallait quand même que j'aie une playlist tourmentée. Par ce qui se produisait dans ce roman. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Un crash aérien, la mort d'une famille. Et il se trouve que l'influence qu'a pu m'apporter mon fils en m'initiant au rap américain, que j'ai beaucoup écouté justement lors de l'écriture de ce roman, m'a amené justement vers cette playlist avec des artistes comme Travis Scott, Pop Smoke, Gordon, évidemment. Et pour le reste, c'est plus apaisé, on va dire. Mmh. Mais il fallait trouver une playlist qui mêle justement de la douceur et du destroy.
Ouais. Entre classicisme et modernité, vous n'avez pas choisi, vous avez pris les deux.
Voilà, ça commence dans la douceur, ça finit dans la douceur, mais entre-temps, c'est du destroy.
À votre nouveau roman, De rares nuages, est paru le 2 septembre 2025. Jusqu'à présent, vos lectrices et vos lecteurs n'ont pas encore eu la chance de vous rencontrer pour en parler. Si je me trompe, vous vous réservez pour 2026 ça ?
Ben écoutez, j'ai plutôt des rencontres assez lointaines, mais par rapport à la région, là, à notre coin, j'ai pas eu d'invitation, de proposition particulière.
Pas encore,
j'espère, oui. À moins que le sujet du livre soit trop dissuasif.
Ah bon ?
Bah, c'est quand même un livre dur. Hein,
oui, sombre. Il y en a d'autres de livres sombres.
Oui.
D'accord, bien. Donc j'imagine que vous êtes dans l'écriture d'un nouveau roman, comme d'habitude. Il est trop tôt pour en parler. Hein.
Il est trop tôt pour en parler. Je pourrais parler du livre que je devais écrire.
Ah bah oui, oui.
Non, comme je suis un amoureux du Vietnam, comme vous le savez, je voulais me lancer dans l'histoire d'un jeune Français qui se trouve... pris à l'époque de la chute de Saïgon. Pour diverses raisons, Enfin, il est captif d'une histoire d'amour, mais il est aussi captif de la situation. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup documenté, j'ai beaucoup lu, mais quand je me suis dit allez, j'y vais, je me suis dit non, je ne sens pas encore l'histoire. Donc, j'écris autre chose. Ça bien. Sera pour la prochaine fois.
Très bien. Bah, tout à l'heure, nous évoquions les séances dédicaces. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le cœur, épaule contre épaule. Sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Jean-François, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Mon dernier coup de cœur littéraire, alors là, je serais bien incapable de dire, parce que j'ai été déçu par le prix Goncourt, j'ai été déçu par le prix Renaudot. Et puis après, je me suis mis à écrire et j'ai très peu lu. Donc, je n'ai pas de livre en tête à vous proposer. Non, ça me vient pas comme ça. J'ai rien lu de vraiment génial depuis la rentrée. Ça, je suis désolé de vous l'avouer.
La prochaine fois.
Oui.
Voilà. Allez, côté proposition de la quinzaine, notons le roman de Mélissa Dacosta, Tenir droit aux éditions Albin Michel, le polar de Viveka Stein, Sam 505 aux éditions Albin Michel, le roman de Claire Norton et Que Dieu me pardonne aux éditions Robert Laffont, le cozy crime de Robert Thorogood, Les Dames de Marlowe, Enquête, Il suffira d'un signe aux éditions Point, le roman de Mathieu Gounel, Toujours l'aimé aux éditions Arléa, le polar de Colson Whitehead, La règle du crime aux éditions Albin Michel, le roman de Christian Côté-Aymard, Tu écris toujours aux éditions Le Pont du Change. Vous connaissez Christian Côté-Aymard ?
Oui, oui, oui. Il est de
Yona.
De Yona, voilà.
Bah, il sera avec nous prochainement dans un roman de gare. Le thriller de Céline Bréant, Là où sombrent les secrets aux éditions Tornada. Les romans de Henri Carré, Si yaourt nature est comme un guerrier aux éditions A.O. André Audemars. Le polar de Daniel Thierry, Bibac aux éditions Payot et Rivage. Le roman de Aurélien Bélanger, Les derniers jours du Parti socialiste aux éditions Point. Il y a plein de choses à dire. Le livre de Jézabel Coupé-Soubéran, L'argent expliqué à ma mère et à son banquier aux éditions du Seuil. Le roman de Sébastien Vidal, Une saison de colère aux éditions Le Mot et le Reste. Le polar de Audrey Sabardel, Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. Le roman de Philippe Hume, Roman policier aux éditions Des Équateurs. Le polar de Ingrid Astier, Ultima aux éditions Gallimard. Le roman de Mireille Calmel, Morgane, Reine des Brumes, aux éditions XO. Et le livre de Frédéric Grimaud, Enseignant, les nouveaux prolétaires, le nouveau taylorisme à l'école, aux éditions ESF Sciences Humaines. Ça vous parle ?
Ah non, je vous ai j'ai trouvé quand même, je suis remonté dans mon réseau social, là, sur un roman de Philippe Djian, le dernier Philippe Djian qui s'appelle Dolores et qui m'a comme d'habitude enchanté, amusé. Et puis j'aime bien comme il joue avec son écriture, comme il fait progresser l'écriture. C'est un des écrivains français que j'admire beaucoup.
Donc je parlais du livre de Frédéric Grimaud qui s'appelle « Enseignant, les nouveaux prolétaires, le nouveau taylorisme à l'école » aux éditions ISF Sciences Humaines. Voilà. Ça devrait vous intéresser ?
Oui, bah écoutez...
Oui, j'ai bien que vous êtes plus concerné, mais quand même.
Oui, non, mais je...
Vous avez quelques souvenirs de votre profession.
Je plains mes collègues actuels. Oui.
On finira avec le roman de Patrice Gain, « Seules les rivières » aux éditions Albin Michel. Eh bien, Roman de gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Jean-François Dupont, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de gare.
Merci à vous.
Rappelons que votre dernier roman, De rares nuages, est paru le 2 septembre 2025 aux éditions Asphalt. On peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies, sans oublier vos autres romans, et ils sont nombreux. Enfin, je ne sais pas, oui.
Écoutez, c'est le 15e.
Donc on peut les trouver dans toutes les bonnes librairies.
Alors les plus anciens, bon certains sont épuisés, ouais. Donc mais en ce qui concerne les derniers, il y a aucun souci, bien évidemment, oui.
Voilà. Vous irez où particulièrement, dans quelle librairie?
Ah, vous voulez que je donne un nom?
Bah, non, vous n'êtes pas obligé. Il y a une librairie qui vous aide bien.
Bien sûr, allez voilà, à la librairie Montbarbon.
Voilà,
bien sûr.
Par exemple. On peut suivre votre actualité sur Internet via les réseaux sociaux et puis le site de votre maison d'édition.
Oui. Moi, je suis sur Instagram, Facebook et puis le site d'Asphalte.
Voilà, asphalte-édition.com avec une belle playlist. Par exemple.
Effectivement.
Jean-François, bonne chance pour la suite de vos aventures de romancier.
Merci.
Bonne séance dédicace.
Merci aussi.
Bon voyage.
Bon voyage, oui.
Bah oui. Et à bientôt sur Radio B.
Et d'accord.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.